Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un haut représentant du Saint-Siège en visite au Japon à l'occasion de l'anniversaire des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce magazine, vous entendrez Mgr Takami. Il exhorte les leaders à se réveiller et à prendre conscience du danger que représentent les armes nucléaires. La Fondation Jérôme Lejeune, prise pour cible dimanche à Paris, elle s'occupe des trisomies qui ont l'accuse d'homophobie. Le président Jean-Marie Le Méné a tenu à nous faire part de sa colère et de son indignation. Pas de repos estival pour le pape François. De retour de Rio, il prépare la rentrée, tandis que la presse s'efforce de décortiquer ses faits et gestes. Simple changement de style ou véritable révolution. Les avis sont partagés. Le cardinal Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, est au Japon pour participer à une initiative de la conférence épiscopale japonaise intitulée « 10 jours pour la paix ». Organisée à l'occasion de l'anniversaire des bombardements atomiques américains, cette action qui se déroule dans tous les diocèses coïncide cette année avec le cinquantenaire de l'encyclique de Jean XXIII, Pacem in Terris. Lundi matin, le cardinal Turkson a célébré la messe en la cathédrale d'Hiroshima. Dans son homélie, il a souhaité la fin de toutes les violences et proposé l'exemple du Christ ressuscité qui, au lieu de revenir sur la trahison de ses disciples, leur adresse une salutation de paix. Ils deviendront alors des ministres du pardon et de la réconciliation. Mardi, le cardinal Turkson participera à une rencontre interreligieuse rassemblant des catholiques, des protestants, des bouddhistes et des shintoïstes. Jeudi, à Nagasaki, au cours d'une cérémonie commémorative, il récitera une prière pour les défunts, mais aussi pour ceux qui souffrent encore des conséquences de la radioactivité. Le lendemain, dans la ville martyre, il célébrera une messe en mémoire des victimes des bombardements américains et pour la paix dans le monde. Son séjour au Japon s'achèvera le 9 août. Hélène Détombe a interrogé l'archevêque de Nagasaki, Mgr Joseph Takami. Il nous explique l'importance de la présence d'un représentant du Saint-Siège et s'attarde sur le sens de ces 10 jours pour la paix.
Nous avons invité le cardinal pour prier ensemble pour la paix. Non seulement des armements nucléaires, mais aussi, autant que possible, tous les armements, non ? Parce que nous célébrons cette année le 50e anniversaire de la promulgation de l'encyclique Pacem in Terris. Nous avons republié, révisé la traduction japonaise de cette encyclique pour que les chrétiens pensent mieux comment réaliser la paix en s'appuyant sur l'enseignement du Christ, l'évangile du Christ.
Vous avez, à de nombreuses reprises, réclamé l'abandon total du nucléaire.
Oui.
Est-ce que votre voix, la voix des évêques, commence à être entendue dans le pays ?
Même parmi les chrétiens, il y en a qui acceptent peut-être les armements nucléaires. Mais à cause de la situation politique, surtout en relation avec la Chine et la Corée du Nord, non ? Alors, beaucoup de Japonais pensent de devoir se défendre contre ces deux pays. Alors pour ça, il faut avoir des armements, même nucléaires. Mais nous, les évêques, nous insistons sur l'impuissance des armes nucléaires. Même si on en a, on ne peut pas nous défendre parfaitement. Et même on se tue avec des armements. Ça c'est pour tuer des autres, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement nous défendre. C'est des instruments de meurtre des autres. Il ne faut pas créer ou de produire ces choses-là. Beaucoup de gens, beaucoup de Japonais peut-être, ne se réalisent pas. Plutôt, ils ont beaucoup de peur peut-être en pensant des attaques possibles de la Chine et de la Corée du Nord, etc.
Au-delà de la menace que représente le nucléaire militaire, la question du nucléaire civil fait aussi débat au Japon. On a vu donc la terrible catastrophe de Fukushima et ses conséquences avec les eaux souterraines radioactives qui sont en train de se déverser dans l'océan Pacifique.
De ce côté-là, oui, de ce point de vue-là, il y a pas mal de Japonais qui sont obligés de vraiment penser, de réfléchir sur la nécessité de plan nucléaire parce que c'est vraiment non seulement dangereux, mais ça contamine la nature. Et puis, on ne peut pas comment faire, comment dissoudre le pouvoir nucléaire Et puis, ça coûte énormément d'argent. Hein. Puis, ça donne beaucoup de peur aux gens. Et alors, en relation avec la bombe atomique de Hiroshima et de Nagasaki, il y en a qui relient ces deux événements. Enfin, peut-être plus de moitié des Japonais, mais maintenant, sont contre le nucléaire civil.
Comment les jeunes Japonais perçoivent-ils ces commémorations?
Ça, c'est difficile à dire, mais surtout à Nagasaki, à Hiroshima, et dans les écoles primaires et secondaires, etc., tout le temps, les enfants sont éduqués de savoir ce que c'était la bombe atomique et les effets, etc. Ce qu'on appelle l'éducation de la paix, ça se fait à Nagasaki et à Hiroshima. Alors, beaucoup de jeunes comprennent déjà beaucoup de choses, je pense. Mais dans tout le Japon, ce n'est pas tout à fait comme ça. Le nucléaire civil, ça aussi, ça peut être facilement transformé en désarmement nucléaire, non, n'est-ce pas? Ça n'a qu'un seul but, c'est détruire la vie. Détruire la nature, détruire tout. Alors, il faut que tous les leaders, tous les pays, surtout qui ont du pouvoir politique et économique, se réveillent, réalisent. C'est très difficile, mais il faut prier donc. Il faut faire toujours des efforts pour avancer, pour la paix. Il faut agir, hein, d'une manière d'une autre.
Monseigneur Joseph Takami, archevêque de Nagasaki. 200 000 personnes sont mortes dans les 60 jours qui ont suivi les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Les deux villes ont été entièrement détruites par l'arme nucléaire et ceux qui ont survécu à l'explosion ont été contaminés en aspirant des substances radioactives ou en consommant des aliments contaminés sans que quiconque les informe clairement du danger de la radioactivité. Le nombre des irradiés est estimé à plus de 80 000 par l'université de Hiroshima. Cette blessure a été ravivée par l'accident nucléaire de Fukushima. Lors d'un happening organisé dimanche à Paris, l'association homosexuelle de lutte contre le sida ACT UP s'en est pris à la fondation Jérôme Lejeune qui vient en aide aux personnes trisomiques. Face aux journalistes, les militants ont déversé du faux sang sur les murs du siège de la fondation à Paris. Des affiches écrites homophobes, shame et la manif pour tous homophobes ont été placardées sur la façade. Selon ACT UP, cette action ne constituait pas une attaque personnelle contre la fondation mais contre la manif pour tous en général, car la directrice de la communication de la Fondation, Ludovine de la Rochère, est aussi présidente de la Manif pour tous. Écoutez le président de la Fondation, Jean-Marie Lemenné, au micro de Maxime Bepser.
Il est bien évident que c'est dirigé contre Ludovine de la Rochère, qui est présidente de la Manif pour tous et en même temps salariée de la Fondation. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a même des images à son effigie. Mais c'est aussi une attaque matérielle. Enfin, l'attaque matérielle est contre la Fondation, contre les locaux de la Fondation. Nous, on a des dégradations donc qui vont coûter de l'argent. Hein. Et puis, la Fondation, dans les attaques injurieuses, est aussi victime, puisqu'on dit Fondation Jérôme Lejeune homophobe, soutien et complice de la Manif pour tous. Alors, homophobe, c'est une attaque injurieuse, complice et soutien à la Manif pour tous. Je ne vois pas en quoi ce serait délictuel. Enfin, de demander à papa et une maman, nous sommes absolument solidaires du combat de la Manif pour tous à la Fondation Jérôme Lejeune, et surtout pour les enfants handicapés qui seraient très déstabilisés d'avoir deux pères ou deux mères.
Est-ce que vous avez donné des suites judiciaires à cette action?
Nous avons déjà déposé plainte ce matin, et donc nous allons déposer une plainte pour dégradation de biens, parce qu'ils ont dégradé l'immobilier de la Fondation, et puis probablement une plainte aussi pour injure publique. Et puis de son côté, bien sûr, la Manif pour tous fera la même chose. Donc il y aura le maximum d'attaques judiciaires pour rendre la justice et faire en sorte que ce mouvement extrémiste qui s'appelle ACT UP depuis 20 ans cesse ses exactions en s'en prenant aux plus faibles, en fait.
Vous semblez penser que la presse soutient l'action d'ACT UP contre votre fondation, mais si vous convoquez des journalistes pour dénoncer cette action, ne pensez-vous pas qu'ils viendraient également vous écouter?
Non, non, ce qui l'intéresse, c'est de voir la fondation attaquée, taguée, maculée, souillée. Ça l'intéresse. Quand on téléphone à la presse pour lui demander de parler du respect de l'embryon, du respect des personnes handicapées, etc., c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, évidemment, d'avoir la presse. Alors, cela dit, je ne veux pas dire que la presse est forcément d'accord avec les actions d'ACT UP. Je crois qu'ils sont un peu las de ce type d'action, comme d'ailleurs l'opinion publique est lasse de ce type d'action. Hein. Parce que quand on regarde sur les sites internet les commentaires des internautes après cette annonce, il n'y a pas un internaute qui défend ACT UP. Hein. C'est les gens qui sont exaspérés, ulcérés. Il y avait dans la rue ce matin des quantités de badauds qui passaient devant les locaux de la Fondation. Ils étaient indignés, évidemment, par l'action d'ACT UP. Et le fait que ACT UP attaque une consultation médicale d'enfants handicapés ne fera l'objet, évidemment, d'aucun message de soutien de la part du gouvernement ni des autorités établies en France.
C'était le président de la Fondation Jérôme Lejeune, Jean-Marie Leméné. Le pape François a donc choisi de rester à Rome malgré la chaleur, de ne pas passer l'été à Castel Gandolfo comme ses prédécesseurs. Après le tour de force et le formidable succès des JMJ de Rio, il travaille et prépare une rentrée qui s'annonce chargée. Et les vaticanistes en profitent pour décortiquer son lexique et son style nouveau, un exercice auquel beaucoup se livrent depuis des mois. Olivier Bonnel.
Cela fait des mois que ces sorties fascinent les journalistes qui cèdent parfois à la surinterprétation, alors que ces gestes de liberté par rapport à la mondanité ecclésiastique et certains de ses propos le rendent parfois indéchiffrable. Appelé à contribution par la presse italienne, un cardinal souligne que le pape François change la forme pour renforcer les contenus par des formules directes et imagées qui frappent les esprits. Le père Lombardi, lui, voit dans l'attitude du pape son désir profond de communiquer à tous l'amour de Dieu et sa miséricorde afin que personne ne se sente exclu. Le pape François parle davantage de l'évangile social et moins de la bioéthique, de l'avortement ou du mariage gay, parce qu'il estime, explique-t-on, que la position de l'Église sur ces sujets est suffisamment claire. Il n'a aucune intention de modifier l'enseignement moral de l'Église sur la vie et la famille, mais il rechigne à rabâcher les interdits. Car le pape Bergoglio veut que son ministère soit fondé sur l'empathie et l'inclusion, sur l'accueil et le réconfort. Il préfère dénoncer les blessures sociales que constituent la pauvreté, les injustices, les inégalités, les dérives du capitalisme financier. Au fond, le pape François poursuit sur les sentiers empruntés depuis des décennies par ses prédécesseurs. Certes, mais ce changement de style est en train de définir les contours et la portée de son pontificat. Par ses gestes et ses attitudes, il a déjà bouleversé l'étiquette et le cérémonial du Vatican. Reste à savoir s'il s'agit ou pas d'un tournant dans l'histoire de la papauté.
En attendant, c'est sur des réformes de structure que le pape argentin est attendu. Fonctionnement de la curie romaine, collégialité, gestion des finances. Le pape François y travaille dans le calme d'une ville désertée par ses habitants, loin de l'effervescence médiatique et de l'engouement populaire qu'il ne cesse de susciter. Ce mardi, fête liturgique de la Transfiguration à l'occasion du 35e anniversaire de la mort du pape Paul VI, une concélébration eucharistique aura lieu à 17h dans la basilique Saint-Pierre. Elle sera présidée par l'évêque de Bergame. Une délégation du village natal du pape Montigny sera présente. À l'Angélus dimanche, le Saint-Père a évoqué la mémoire de son prédécesseur avec une pensée de profonde gratitude. Cette année, on commémore le cinquantenaire de l'élection de ce pape qui a eu la tâche délicate de conduire le Concile Vatican II à son achèvement. Son pontificat aura duré 15 ans. Ses vertus héroïques ont été reconnues au mois de décembre par Benoît XVI, ouvrant la voie à une éventuelle béatification. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose de réécouter l'historien de la papauté Yves Brûlé, auteur notamment de l'ouvrage « La papauté » de Simon-Pierre à Jean-Paul II. Olivier Tosserie l'avait interrogé le 19 décembre 2012.
Paul VI reste dans l'histoire comme le pape qui a achevé le Concile Vatican II et en a géré, on peut dire, et animé l'application à la fois d'une manière extrêmement active et puis dans les dernières années d'une manière beaucoup plus conflictuelle et difficile. Mais sa béatification, si elle intervient, va mettre en lumière la personnalité du pontife dans l'ensemble de son existence et pas simplement son action comme pape.
Une personnalité riche, particulière, celle du pape Montigny.
C'est une personnalité qui n'est pas comparable avec les papes qui l'ont précédé ou suivi. C'est le grand intérêt, finalement, c'est de voir que la succession des papes met sur le trône de Saint-Pierre des personnalités très différentes. Il n'a ni l'extraordinaire majesté de Pie XII, ni la rondeur de Jean XXIII, ni le charisme ou l'autorité naturelle de Jean-Paul II. Paul VI, c'est autre chose. C'est un homme d'une très très grande culture, très intéressé par l'histoire des idées politiques. Mais sa première vocation était le monastère bénédictin. Alors il n'y est pas véritablement entré, il est entré dans le clergé séculier. Mais c'est effectivement un homme de prière, de spiritualité profonde. Et c'est un homme qui a eu une carrière tout à fait extraordinaire. Et on le présente toujours comme le successeur de Jean XXIII, celui qui a poursuivi l'œuvre voulue par Jean XXIII, mais il a été d'abord le plus proche collaborateur de Pie XII, hein, et il faut jamais l'oublier. Et donc c'est lorsqu'il est élu en 1963, il est à la fois le continuateur du pontificat de Pie XII, qui n'est pas si ancien, et le continuateur de l'œuvre de Jean XXIII.
Mais où se situe la vérité de l'homme ? Est-ce que c'est plus un pape qu'on va dire entre guillemets conservateur qui défendait des positions de l'Église en ce qui concerne les thèmes de société, une époque où justement les sociétés occidentales évoluaient énormément, ou bien un pape progressiste qui a permis à l'Église de se moderniser à travers ce Concile Vatican II.
Il faut chercher les continuités. Paul VI a d'abord eu à accompagner des évolutions, celles du Concile, et ensuite, effectivement, il a eu à freiner. Et le tournant se situe autour des années 1968-69. Mais on ne peut pas opposer l'un et l'autre, c'est simplement que le contexte a changé, mais ses convictions à lui sont restées profondément les mêmes. Simplement, au départ, il a eu à accompagner cette évolution, mais à un moment, on a senti, et tout le monde a senti, rappelez-vous ce que disait Maritain, qui déplorait que les chrétiens se trouvent à genoux devant le monde, et c'était en 1966. Et donc, après ce moment de crise, il a fallu à Paul VI rappeler un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas nouvelles et qui ne sont pas ressorties à ce moment-là. Simplement, il a rappelé ces deux textes importants, son credo de juin 1968, et l'encyclique qui suit un mois après, hein, Humanae Vitae, qui lui a été très reproché, mais au fond, dans laquelle il exprime ce qu'il pensait depuis toujours. Il n'y a pas un tournant dans son pontificat, simplement il s'adapte à un contexte qui a été différent dans les dernières années de son pontificat.
Et ces 15 ans de pontificat ont été 15 ans riches, un pontificat particulier pour l'Église catholique ?
C'est d'abord la manière d'être pape qui a changé. Aussi, dans la suite du Concile, un certain nombre de choses, de traditions du Vatican ont changé. Le pape a commencé à voyager, ce qui était parfaitement nouveau et qui est un élément maintenant absolument essentiel de la vie des pontifes. Donc les premiers voyages à l'ONU, à Jérusalem. Bon, c'est aussi un souci œcuménique très, très actif. On a en mémoire sa rencontre avec Athénagoras, mais aussi le rapprochement amorcé avec les Anglicans, etc. Donc il y a une nouvelle manière d'être pape. Et puis, il faut se rappeler un élément aussi, c'est l'année sainte de 1975. À un moment, Paul VI hésite, il se demande, et tout le monde se demande s'il faut continuer les années jubilaires comme depuis l'an 1300, hein, et il décide que oui, et qu'au fond, cette pratique-là n'est pas du tout surannée, n'est pas du tout à abandonner, et l'histoire montre qu'il a eu raison, puisque les années saintes qui ont eu lieu après n'ont cessé d'être toujours de plus grands succès.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. Sainte-Marie-Majeure, le sanctuaire marial le plus ancien d'Occident, si cher au pape François, a célébré solennellement ce lundi la fête de sa dédicace, précédée par un triduum de prière. Le programme prévoyait à 10h la messe présidée par le cardinal archiprêtre Santos Abrili Castello et les secondes vêpres à 17h15. Comme chaque année, une pluie de pétales est tombée de la voûte en souvenir du miracle de la neige, à savoir la chute de neige prodigieuse du 5 août 358 sur la colline romaine de l'Esquilin. Selon la tradition, la Vierge apparut en songe au pape Liber, lui demandant de bâtir une église au lieu qu'il trouverait couvert de neige. Le premier édifice a complètement disparu. La basilique actuelle a été construite au 5e siècle, peu après le concile d'Éphèse, qui avait proclamé solennellement Marie, mère de Dieu. Le lieu abrite une icône byzantine, peinte par saint Luc selon la tradition, et vénérée des Romains depuis des siècles comme salut du peuple romain. Des reproductions de cette icône ont été utilisées par les missionnaires pour évangéliser la Chine. Les jésuites en particulier sont très liés à Sainte-Marie-Majeure. C'est dans une chapelle de cette basilique que saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, a célébré sa première messe. Le pape Bergoglio, lui-même jésuite, s'y est rendu quelques heures après son élection pour confier son ministère à la Vierge. Il y est retourné avant son départ pour les JMJ de Rio et à son retour. Il a une nouvelle fois exprimé son attachement à cette église en évoquant la fête de la dédicace dimanche à l'Angélus et en invitant les fidèles à réciter un Ave Maria et à applaudir la Vierge. C'est la fin de notre émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican Français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.